L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local sur votre radio préférée, l'autre radio bien sûr. Nous sommes le lundi 10 mai. Alors vous l'avez entendu ou peut-être vous étiez déjà au courant, si vous étiez là vendredi, je remplace Marie pour cette petite semaine d'émission. Mais pas de panique, elle nous revient lundi prochain et à cette occasion je serai accompagnée d'Emma. Salut Emma, comment ça va?
Ça va super, bonjour tout le monde et c'est parti pour une émission où on prend le studio quoi.
Exactement, et aujourd'hui on va parler de vie universitaire à Laval et de son potentiel pour devenir une vraie ville étudiante. Ce sera avec le collectif Codule. On prendra nos vélos pour découvrir des fermes laitières bio avec Sivam Bio 53 et on retrouvera les coups de cœur lecture de Christophe avec une BD qui se passe en Irlande aujourd'hui.
Mais tout de suite Claire, un point sur l'actualité, plus de 115 000 marcheurs pour le climat en France.
Dont 200 rassemblés ce dimanche au square de Boston à Laval, ils se sont dirigés ensuite au théâtre où plusieurs textes ont été lus, notamment un de Greta Thunberg par deux lycéens. La manifestation s'est ensuite déplacée et a pique-niqué devant le poids de Coupeau à Saint-Barthevin en soutien à la lutte contre le déboisement du site. À Château-Gontier, ils étaient plus d'une centaine.
Un accident grave ce dimanche.
Un motard a été transporté par hélicoptère hier. L'accident s'est produit à Congrié, tout près de Cran. L'homme roulait à plus de 150 km/h sur la départementale et a percuté la voiture devant lui. Le pilote a été projeté sur plusieurs mètres et a été gravement blessé. Il est aujourd'hui au CHU d'Angers dans un état stable.
En Mayenne, la campagne de dépistage se poursuit cette semaine.
Notamment à Laval, à la salle du Palindrome, ce vendredi et samedi. Autre changement, à cause du jour férié, le dépistage se fera mercredi à Château-Gontier, à la halle du Haut-Anjou. Et samedi, à Mêlée-du-Maine, sur le parking de la piscine. Vous pourrez aussi vous faire tester ce lundi et mercredi à Saint-Berthevin, à l'espace sportif Bénard-le-Godet. Et demain, mardi, à Goron, place des AFN. Et vendredi, à la salle polyvalente de Mayenne.
Les commerçants font face aux premières pénuries.
Depuis l'annonce du calendrier du déconfinement, les commerçants et restaurateurs ont du mal à refaire leur stock. En cause, tous veulent refaire leur terrasse, acheter du matériel, donner un coup de frais après de nombreux mois fermés. Mais aussi en cause de ces stocks ralentis, le blocage du bateau dans le canal de Suez, qui a mis en retard les autres bateaux. Pour rappel, les musées, cinémas, commerces non essentiels et les terrasses réouvriront mercredi prochain, 19 mai.
François Pervy a testé l'espace Mayenne samedi.
À l'occasion du jour 53 avant le Tour de France, le septuple champion du monde et médaillé olympique a pu tester en avant-première le nouveau vélodrome. Pour le sportif, je cite, c'est une émotion très spéciale d'être le premier à rouler sur une nouvelle piste, sur ses terres d'origine. Et c'est enfin un vélodrome digne de ce nom en Mayenne.
Le foot, les tangos jouent ce soir à Créteil.
Le Stade Lavallois affronte à 20h45, soyez au rendez-vous, les avant-derniers du classement du national. Les hommes d'Olivier Frappoli veulent terminer la saison en beauté, alors qu'ils sont 10e et qu'il leur reste deux rencontres à disputer.
Et Claire, Laval pourrait-elle devenir une ville universitaire?
C'est ce qu'espère le CODUL, un collectif de 17 organisations, syndicats et partis politiques. Il s'est formé en réaction aux subventions publiques accordées pour l'agrandissement à Laval de l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. Il réclame un véritable projet de développement de l'université publique à Laval, qui pâtit de sa situation entre Angers-le-Mans et Rennes, mais aussi d'un manque de formation et d'infrastructures. Loïc Brousset est le secrétaire départemental de l'UNSA, éducation en Mayenne.
Laval offre déjà certaines formations, hein. C'est le cas du droit, c'est le cas en médecine, maintenant il y a une première année de médecine, etc. Mais c'est assez limité, et les étudiants mayennais sont contraints d'aller étudier pour la plupart à Angers et au Mans, avec des coûts liés à la vie étudiante qui sont importants, notamment le logement, qui est très difficile à trouver sur Angers notamment. Alors que Laval pourrait accueillir ces étudiants-là, libérer du coup de l'espace aussi et des logements étudiants et des places à l'université pour d'autres étudiants à Angers ou au Mans. C'est pas le choix qu'a fait l'État, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour montrer que Laval pourrait devenir un petit centre universitaire et permettre aux Lavallois et aux Mayennais de rester dans le département. L'argent public, c'est une question de choix, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les priorités de l'argent qui est payé par les administrés, en gros, du département, de la région, etc. La question est posée à l'agglomération de Laval de financer aussi à hauteur de 2,5 millions d'euros. Ces 2,5 millions, pour nous, CODUL, devraient servir à l'ensemble des étudiants et donc pas à quelques-uns, les privilégiés qui pourraient se payer les études extrêmement chères à l'Université catholique. Donc pour nous, la question du financement public de cet institut ne se pose pas. Ils ont tout à fait la légitimité de proposer des offres de formation, parce que l'enseignement supérieur ne se limite pas au service public, mais par contre, le financement public de l'enseignement supérieur, pour nous, doit se limiter au service public. On a aussi en Mayenne, on l'a dit tout à l'heure, des salaires qui sont assez faibles, et donc des étudiants qui, par contrainte, parce qu'ils ne peuvent pas se payer soit le logement dans une ville universitaire, Angers, Le Mans, Rennes, soit les déplacements et tout ce qui va avec la vie étudiante, et ne peuvent pas non plus se payer des études à 3, 4, 5, 6, 7 000 euros l'année dans un institut privé, renoncent à faire des études et finalement partent sur des filières courtes, alors qu'ils pourraient partir sur des filières plus longues si le service public de l'enseignement supérieur offrait des formations en Mayenne.
Autre statistique qui interroge le collectif, la Mayenne a un taux de bacheliers plus important que dans d'autres départements, mais compte aussi ensuite moins d'étudiants. On part à vélo tout en mangeant du fromage. Oui, oui, c'est avec la vélo fourchette. On en parle juste après Captain Kidd et leur titre Sun One.
Help me find some.
C'était Captain Kidd pour Sun Wen sur l'autre radio, un titre qu'on pourrait écouter pendant un trajet à vélo, je trouve, et ça tombe bien, on l'enfourche pour découvrir des fermes laitières bio. C'est le principe de la vélo-fourchette. La troisième édition de l'événement est organisée à partir du 23 mai par l'association d'agriculteurs Sivam Bio 53. Plusieurs parcours sont proposés sur chacun d'eux, de visites dans des fermes laitières biologiques. Découverte de ce milieu, dégustation de fromage et moments sportifs en pleine nature attendent les quelques 200 participants.
Bonjour, donc Moïse Corny, animateur au Sivam Bio.
Le Sivam Bio qui est donc organisateur de la Vélo Fourchette, qui va fêter sa troisième édition ce mois de mai, ce mois de juin. Est-ce qu'on peut déjà présenter tout simplement ce qu'est la Vélo Fourchette ?
Oui, alors la Vélo Fourchette, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, à l'initiative des paysans et fromagers, paysannes fromagères. Donc en fait, on a remarqué qu'en Mayenne, on n'avait pas à rougir de nos spécialités fromagères. On avait des belles richesses et belles diversités de fromages fermiers en Mayenne, au lait cru. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de fermes fromagères bio qui travaillent au lait cru en Mayenne. Et donc, on a souhaité le faire connaître davantage en alliant en fait un événement qui allie visite de ferme, fromagerie et puis dégustation et vélo.
Donc c'est ça en fait, sur chaque étape, on a tout un parcours à vélo dans lequel on peut découvrir deux fermes, voir leur fonctionnement et puis aussi goûter les fromages j'imagine et aller à la rencontre des producteurs, c'est l'objectif ?
Exactement, donc en fait il y a plusieurs dates qui sont proposées, donc à chaque date il y a une ou plusieurs boucles qui sont proposées, donc chaque boucle en fait se déroule, donc c'est une boucle par donc sur une journée, donc il y a deux visites de fermes fromagères, une le matin, une l'après-midi, et on propose entre ces deux fermes fromagères un itinéraire à vélo pour découvrir le paysage mayennais, donc un itinéraire en vélo qui emprunte des petites routes, des chemins, des voies vertes, des petites routes de campagne, voire le halage aussi, le long de la Mayenne. Alors du coup, il y a sept boucles qui sont organisées. Donc il y a une première boucle le 14 mai entre Chantrigné et Saint-Frimbault, une boucle le 16 mai qui a lieu entre Saint-Nid-de-Gâtine et Bressé. On a une boucle également le 23 mai entre Comté et Montflour. Une le 30 mai entre Bazougers et La Chapelle-Rinsoin, le 30 mai également entre Le Bourgneuf-la-Forêt et Saint-Ouen-des-Toits, et enfin une dernière date où il y a deux boucles d'organiser le dimanche 13 juin entre Bonchamp-lès-Laval et le Genêt-Saint-Île et entre Quelaine-Saint-Gaud et Entrammes. Donc 14 fermes fromagères à visiter, à parcourir et dégustation de fromage.
Donc Thierry Sabin, je suis agriculteur à Bonchamp sur la ferme des Épiers et nous avons une exploitation en agriculture biologique où on élève des petites vaches jerseyaises pour faire du lait. Et à côté, nous avons une fromagerie qui s'appelle la fromagerie des Épiers, c'est le nom de la marque des fromages. Et nous sommes 3 personnes, donc ma femme, moi et Solène, notre salariée, la fromagère. Voilà.
Et donc, vous participez, vous aussi, à cette vélo-fourchette cette année. C'était déjà le cas les années précédentes. Qu'est-ce que vous en retenez, justement, de ces éditions précédentes ?
Des échanges fort sympathiques avec les visiteurs, d'excellents échanges avec les petits et les grands, notamment sur la vie de la ferme, la découverte des fromages, de l'herbe au fromage, voilà. Et oui, il y a... Les gens viennent en visiteurs décontractés, et c'est super sympa.
Justement, l'événement, il s'adresse à qui ? À des gens qui connaissent déjà un petit peu le milieu ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est d'autant plus quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller dans une ferme ou pas souvent. Donc, c'est vraiment le moment rêvé puisqu'on parle de tout, on voit tout ce qui se passe dans la ferme, plus après le fonctionnement de la fromagerie et dégustation des fromages. Donc, en fait, on voit tout ce qui se passe, de l'herbe dans les prés, la vache plutôt, et puis jusqu'au lait qui est transformé en fromage.
Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ou les choses qui, en général, suscitent de l'étonnement ou voilà. Est-ce que vous avez des choses à chaque fois qui reviennent d'année en année ?
Ben oui, alors après, il y a beaucoup de questions sur la fabrication du fromage. Donc, comment ça se passe, les temps d'affinage, la fabrication, comment on fait du fromage à partir du lait, quoi, voilà. Côté vache, y a la découverte des vaches, parce que les vaches, elles attendent la visite avant de les laisser partir à l'herbe. Et donc la découverte des vaches, puis comme c'est des petites vaches, donc c'est très particulier. Donc voilà. Et puis ben il y a des questions sur l'agriculture biologique, c'est normal. Et donc on répond aux interrogations. Et effectivement, on leur fait comprendre parce que c'est pas toujours perçu comme ça, mais le très fort lien entre ce qu'on vit, enfin ce que fait l'animal et dans son milieu de vie, la qualité du lait qu'on en découle et donc la qualité des fromages, puisque ce sont des fromages au lait cru, donc ça veut dire qu'en fait, voilà, le résultat, il est en fonction de tout ce qui s'est passé avant.
On le comprend encore mieux quand on visite sur place, c'est ça l'intérêt de l'événement selon vous ?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on visualise vraiment concrètement ce qui se passe côté ferme et côté fromagerie. Et la qualité, le côté sympathique des choses et puis les exigences.
Est-ce que ça vous amène des nouveaux clients ou en tout cas une autre notoriété ? Quel est l'intérêt pour vous de participer ?
Alors, l'intérêt pour nous, c'est de partager. Voilà. On n'est pas dans un jour commercial, on est dans un jour de partage. Effectivement, l'incidence, c'est que le bouche à oreille fonctionne. Les personnes ont mieux vu concrètement. Lorsqu'ils viennent acheter d'habitude, ceux qui viennent, ils achètent le fromage, mais ils n'ont pas eu l'occasion de voir ce qui se passe dans la ferme, parce que là, on voit tout. Et puis, ouais, c'est le partage. L'idée, c'est de partager. Voilà.
Et aussi de mieux faire connaître votre métier, tout simplement, j'imagine.
Ouais, de mieux faire connaître le métier, oui, tout à fait, oui. Et de faire comprendre que le métier d'agriculteur, lorsque un produit agricole sort de la ferme, un fromage, un légume, voilà, eh bien, en amont de ce produit fini, prêt à mettre dans l'assiette, eh bien, c'est quand même tout un ensemble très complexe, hein, et où l'homme et la femme dedans composent avec les éléments de la nature pour faire au mieux dans le produit final, quoi.
Et alors, donc, vous ferez partie de quelle étape de la vélo-fourchette cette année ?
Eh bien, donc, le 13 juin, de Bonchamp à Genest-Saint-Île, voilà. Donc, visite des vaches le matin et d'un charmant petit élevage de chèvres l'après-midi. Et puis, je crois que vélo-fourchette, surtout, on parle de vélo d'abord. Et donc, ce qui doit être sympa et ce qui est sympa à vivre, c'est d'abord de vivre en famille ou entre amis la balade en vélo et la découverte de la campagne entre les deux lieux de visite, quoi.
Puisque c'est des étapes, oui, qui sont familiales, à vélo, ça se fait facilement.
C'est prévu pour, normalement. On n'a pas eu de retour pour dire, voilà, surtout quand c'est vécu avec des enfants, que c'était un peu trop compliqué ou pas. Non, je pense que bien vécu. Ouais.
Alors, on essaye d'emprunter des petits chemins, des petites routes, ça fait découvrir des nouveaux paysages. Et puis le paysage est très en lien aussi avec la qualité des fermes et des fromages. Et donc... Eh ben, ça permet de voir aussi la diversité du paysage. Et alors, c'est vrai que si on va dans le nord Mayenne, il y a un petit peu plus de relief. Ça ne veut pas dire que le parcours plus court est le plus facile, mais on s'arrange pour que ça reste vraiment dans un esprit familial où on est sur entre 15 et 25 kilomètres pour chacune des boucles, avec voilà, le minimum de difficultés pour que ce soit accessible au plus grand nombre.
Et donc, au niveau des exploitations laitières, en tout cas, comment est-ce que vous formez les boucles, justement ? Est-ce que l'idée, c'est juste vraiment la proximité géographique qui joue ? Ou aussi d'avoir une exploitation, voilà, vous disiez, de vaches le matin et de chèvres l'après-midi, par exemple ? Est-ce que ça fait partie des critères de choix ?
Alors, on a de la chance d'avoir une belle diversité de fermes fromagères en Mayenne, des fermes donc lait de vache, au lait de brebis, au lait de chèvre. Alors après, on fait voilà avec la géographie des fermes, on essaye de, en fonction de donc des fermes de disponibles pour accueillir chaque édition, on essaye après de créer des binômes donc entre deux fermes fromagères, donc pour pouvoir construire un itinéraire en vélo entre la ferme du matin et la ferme de l'après-midi. On bouge pas l'emplacement des fermes, alors du coup, on essaye de travailler pour que ce soit un itinéraire qui soit pas trop long, pour que ça reste bien accessible. Et après, donc, on essaye, après, dans la mesure du possible, s'il peut y avoir une diversité en plus fromagère et puis avoir des fromages au lait de vache le matin et des fromages au lait de brebis ou au lait de chèvre l'après-midi, c'est encore mieux parce que ça permet de montrer vraiment cette richesse et cette belle diversité fromagère de fromage bio au lait cru en Mayenne.
Est-ce que justement, vous avez aussi le retour de personnes qui pensaient pas qu'il y avait autant de sortes de fromages en Mayenne aussi ?
complètement, Thierry pourra compléter, mais on n'est pas forcément une région très connue pour le fromage, comme on peut l'être dans des zones de montagne, par exemple, avec des appellations qui ont des renommées peut-être plus importantes que les nôtres. En fait, on a eu des retours de cyclotouristes et puis de consommateurs qui étaient assez surpris de voir finalement sur notre beau territoire cette belle diversité. Déjà d'avoir des fromages de différents types de lait, mais aussi d'avoir des fromages à pâte molle, des fromages affinés, différentes formes de croûte. Voilà, on a une belle diversité de fromages. Je pense que Thierry pourrait bien compléter cette diversité fromagère que l'on a en Mayenne.
Oui, oui, tout à fait. C'est une grande richesse. Alors déjà, la Mayenne, dans son histoire, la production laitière, elle date de très, 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 très longtemps. Hein. Mon grand-père a été un des tout premiers à livrer du lait à la petite entreprise Beignet à cette époque-là, qui est devenue une très grande entreprise aujourd'hui, mais n'empêche qu'en périphérie de Laval, et ça date dans les années, juste après-guerre. Si quand on regarde l'histoire de la Mayenne sur les fromages, il a été fabriqué des petits fromages avec, quand on voit les étiquettes, il y a fort longtemps en Mayenne. Après, la production de lait en Mayenne est ancestrale. Après, effectivement, la production fromagère fermière, elle est plus récente. Hein. Mais aujourd'hui, c'est très varié. C'est vrai que quand on regarde, moi, je suis plutôt dans le domaine lait de vache, et quand on regarde tous les fromages produits, il y a une belle diversité, quoi.
Alors, au niveau de l'organisation, donc tout se fait sur inscription, ce qui permet, voilà, si en fonction de nouvelles recommandations ou nouvelles annonces gouvernementales, on peut être assez réactif finalement pour un changement de date ou un changement d'organisation. Après, voilà, c'est on respecte les mesures, les contraintes sanitaires avec le port du masque et puis la distance pour pouvoir réussir sereinement cet événement. Après, voilà, ça n'empêche pas que la convivialité peut être au rendez-vous. Et donc, voilà, on s'organise. Et c'est vrai que c'est un bon moment, surtout en ce moment où on a été un peu enfermé avec le confinement. C'est un bon bol d'air et un bon moment de découverte.
Comment est-ce qu'on peut s'inscrire, du coup, si on est intéressé?
Tout se passe sur le site internet donc du Civambio, civambio53.fr, et donc une page est dédiée à la vélo fourchette avec des précisions donc sur l'ensemble des itinéraires. Donc pour le moment c'est le programme qui est affiché, puis dans quelques jours donc ce sera le programme détaillé de chacune des boucles avec donc les horaires. Donc ce qui est fixe, il y a juste les horaires de visite de ferme, donc les horaires du matin donc à 10h30. Et les visites de ferme de l'après-midi à 15h30. Après, chacun va à son rythme pour le repas, pour l'itinéraire en vélo. Donc voilà, il y a juste ces deux horaires de visite de ferme fromagère qui sont fixes. Et donc, tous les renseignements voilà, sur le déroulé de la journée et sur les itinéraires à vélo donc seront disponibles sur le site internet du Civambio ainsi que l'inscription. Pour retrouver en fait toutes ces fermes fromagères, alors pour ceux qui ont l'occasion de participer à l'événement, vous aurez les adresses de ces fermes fromagères. Après, tous ceux qui n'auront pas forcément l'occasion de participer à l'ensemble des boucles, en fait on a un guide qui recense bien l'ensemble des fermes fromagères bio ou lait cru en Mayenne. C'est le guide des produits bio en Mayenne qui recense donc les producteurs fromagers, mais aussi c'est le guide est plus exhaustif sur l'ensemble des produits mayennais. Donc, ce guide est disponible, vous le retrouvez dans les offices de tourisme ou dans le lieu de vente de produits bio. Et donc, voilà, pour toutes les adresses, elles sont disponibles sur ce guide.
Depuis l'enregistrement de l'interview réalisée par Marie, l'inscription est désormais possible directement sur le site civambio53.fr. En raison des conditions sanitaires, les deux premières dates, initialement prévues les 14 et 16 mai, seront décalées un peu plus tard, à suivre donc sur leur site. Et nous, on revient juste après la pause musicale assurée par le chanteur des Black Keys, Dan Auerbach, avec son dernier groupe The Arcs et leur titre Velvet Ditch.
C'était The Axe avec Velvet Ditch sur l'autre radio. Vous êtes bien dans l'AGT du local. Je pense que vous l'avez reconnu avec mon excellent accent anglais comme Marie. Et on continue avec un nouveau coup de cœur littéraire, une BD aujourd'hui présentée par Christophe.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Direction l'Irlande avec la bande dessinée Croc Park, signée Sylvain Gache et Richard Guérineau aux éditions Delcourt. Alors faisons tout de suite une petite parenthèse, puisque cette première bande dessinée est à l'origine d'une nouvelle collection éditée par Delcourt. Elle s'intitule « Coup de tête ». Elle est initiée notamment par le scénariste Chris. Cette collection va viser ici à réunir histoire et sport. Et oui, parfois, le sport est au cœur de l'histoire, le sport est au cœur de nos sociétés. Eh bien, on va voir comment le sport peut être revendicateur, comment il peut être un marqueur de temps dans l'histoire. Et ce premier album, Croc Park, nous emmène en Irlande le 21 novembre 1920 pour un dimanche sanglant à Dublin. Oui, le Bloody Sunday, vous le connaissez avec la chanson de U2. Eh bien, ce n'est pas ce Bloody Sunday qui va être raconté dans Croc Park. C'est un autre Bloody Sunday qui va être un véritable carnage et qui va avoir lieu sur la pelouse même du stade mythique de Croc Park à Dublin. On va voir ici tout le combat des indépendantistes irlandais avec les forces britanniques colonialistes, faut le dire. Et bien évidemment, on va mêler l'histoire en 1920 avec aussi un match de rugby qui va avoir lieu 70 ans plus tard dans le fameux stade de Croc Park qui aura changé de visage. Et ce sont ces deux histoires parallèles qui vont nous être racontées dans cette excellente bande dessinée. Voilà. Si vous n'aimez pas le sport, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas l'histoire, c'est pas grave. De toute manière, ce livre va vous réconcilier avec les deux et il va vous faire comprendre comment le sport peut être à l'origine de grandes choses et aussi de grandes manifestations. Je vous invite à découvrir cette bande dessinée Croc Park de Sylvain Gache et Richard Guérineau aux éditions Delcourt.
Retrouvez Aime lire en joue. 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et on retrouve et on réécoute surtout cette chronique, évidemment, sur l'autreradio.fr. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec Emma. On sort nos CV grâce à Pôle emploi qui lance le mouvement hashtag tous mobilisés.
Avec des sessions de recrutement dans différentes agences et à Mayenne, les prochains rendez-vous seront demain mardi 11 mai à 14h pour la présentation de l'entreprise Rapidome et de ses ateliers. Mardi 18 mai à 9h, ce sera la présentation de l'organisme de formation Ecofac et des postes à pourvoir comme hôte de caisse, vendeur en boulangerie et en restauration rapide, tout ça sur le secteur de Mayenne et de ses alentours, suivi ensuite d'un job dating. Mardi 18 mai et mardi 25 mai à 14h, en visio cette fois, ce sera pour le recrutement dans le cadre de l'ouverture du Burger King à Mayenne avec la découverte de l'enseigne et des postes à pourvoir. Les inscriptions, se font par mail à l'adresse ape.53035@pole-emploi.fr.
Et Emma, si on a une petite envie de lecture dans la semaine?
Eh bien, il faut passer aux Emmaüs de Laval ce mercredi 12 mai pour le Livromètre, un événement qui vise à réduire leur stock de livres qui s'est accru avec les confinements. Le but, c'est de choisir vos livres et de mesurer la taille de la pile. Le prix varie en fonction de sa hauteur.
Eh bien, merci beaucoup Emma. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, n'hésitez pas à réécouter l'émission en podcast sur notre site l'autreradio.fr évidemment. Et si vous avez d'autres initiatives à nous partager, laissez-nous un message vocal sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Et c'est déjà la fin de l'émission L'Agité du Local. Merci beaucoup Emma.
Merci Claire, merci tout le monde et à demain.
Et oui, à demain, mais restez ici parce que à suivre, à 19h, c'est Solénoïde, votre rendez-vous musique éclectique. Et à 20h, on sort en boîte, oui, grâce à la discothèque du programmateur. Et nous, comme Emma l'a si bien dit, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une bonne journée.
reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.